Ils viennent de chanter. Bon, vous savez, juste avant qu'ils ne pointent, il y a toujours quelques oiseaux, quelques animaux. Quand la nature s'éveille comme cela, c'est que quelque chose se prépare. La vie arrive. La vie, vous la voyez monter dans un bain de sang rouge craché par le grand jaguar qui l'a dévoré pour la nuit. Il est recraché et il sort comme il s'est couché, mais il a quelque chose de différent, il a quelque chose de plus léger, de plus évanescent, comme ça. Il monte doucement. Et puis, tiens, ce jour-là, il vient d'éteindre le point le plus lumineux de la nuit. Tlahuitzlapantecutli, Monseigneur de l'Aube, la planète Vénus. Et le soleil commence à grimper. Il sait qu'il est dans un monde qui est fait comme une grande pyramide. Lorsqu'on parle aztèque, on voit cette pyramide qui monte à 13 degrés. Mais il sait aussi qu'il a 13 heures. 13 heures diurnes, 13 heures diurnes qui vont le ramener vers la nuit, où il vivra 9 heures nocturnes, 13 et 9, les deux chiffres les plus sacrés, celui de l'obscurité, celui de ce monde vainqueur, de cette incroyable montée vers le ciel. Ah, mais aujourd'hui c'est un jour spécial, nous sommes au mois de mai au Mexique. Oh, ça va se reproduire une autre fois en septembre. Et c'est un phénomène assez curieux parce que si vous étiez prêtre, si vous étiez mage, si vous étiez un peu sorcier, vous seriez déjà... Oh, j'ai envie de dire à l'écoute, parce qu'il parle, ce soleil. Il parle déjà depuis des millénaires, on l'écoute, on essaye de comprendre sa trajectoire, et vous le voyez, il monte aujourd'hui particulièrement droit. Droit depuis ce point de l'Est, et il ira tout droit, effectivement, jusque à la septième heure. Parce qu'il y a 6 heures pour grimper, la septième où il arrive au sommet, le chiffre 7 est le chiffre encore plus sacré, celui qui se trouve entre 1 et 13, la perfection. L'équilibre, comme une balance qui se met en place. Et ce soleil vainqueur, bah tiens, il y a un endroit où je l'ai vécu de façon curieuse. Ce n'est pas un endroit aztèque, non, Xochicalco est d'une culture classique, c'est peut-être dans les années 700 de notre ère, oui, qu'on a eu l'idée de... Comment vous décrire l'endroit? Il y a un tunnel, une sorte de tunnel qui est creusé dans la roche vive, avec juste une petite cassure comme ça, pour empêcher toute lumière, toute visibilité, oui, parce qu'on parle bien de vision. Et vous pénétrez dans une grotte qui est... confortable, comme une sorte de matrice. On pourrait se coller contre ces parois rugueuses. Oh, admettons qu'on soit 13, pourquoi pas. On s'allonge comme ceci. Je dis allongé parce que vous devez vous mettre en retrait. Vous attendez quelque chose qui pourrait venir du centre. Vous laissez passer doucement la sixième heure dans une obscurité absolue. Vos yeux se sont habitués au noir. Le noir est encore plus noir que vous ne l'imaginez. Il y a juste une légère lueur comme cela. Une sorte de fluidité qui arrive du plafond. Puis quand vous le regardez, il est formé d'une sorte de cercle, comme une roue, comme ceci, comme un tube plus exactement. Un tube qui aurait la grandeur d'un disque 33 tours et qui monte, mais vous ne savez pas où. Et cette sixième heure s'éteint. Vous arrivez à la septième. Et là, il y a un moment absolument fou. Quand je parle de magie, c'est... Est-ce que vous avez déjà été dans un théâtre ou dans une de ces salles modernes où tout à coup... Parce que la vedette arrive, tous les spots s'allument d'un coup. Waouh ! Une explosion de lumière. Il est midi. Le soleil est au zénith. Il n'y a plus d'ombre sur la terre. La grotte est blanche. Une couleur qui fait presque peur, parce que cette crainte que vous avez à ce moment-là, c'est de vous dire que il a atteint son lieu. Son lieu, non pas de repos, parce que on le sait qu'au moment de la création, il est resté fixé là-haut et qu'on avait l'impression que le jour allait durer, que la chaleur serait quelque chose qui détruirait le monde. Il a même fallu un dieu qui lance une première flèche rouge et ensuite une flèche jaune jusqu'à ce que le soleil comprenne, ce nouveau soleil, qu'il devait bouger. Et il bouge. Il se met à bouger et il continue à redescendre doucement jusqu'à sa 13e heure. Et à cette heure-là, le même jaguar qu'il avait craché le matin va ouvrir sa gueule et là, dans un bain de sang encore plus violent qu'au matin, va l'avaler pour 9 heures. Et ceci se reproduit, je l'ai dit, 2 fois par année. Nous étions au musée d'anthropologie à Mexico On avait parlé des premiers Américains, on avait vu comment ces Indiens qui étaient venus de Sibérie et qui étaient des Asiatiques finalement, s'étaient installés petit à petit sur l'ensemble de ce continent. Comment, à cause des bousculades climatiques, ils avaient dû changer leur vie, ils avaient dû comprendre non seulement la nature qu'ils connaissaient déjà bien à cause des animaux qu'ils chassaient par ce côté nomade, mais tout à coup ils avaient dû tourner leur regard vers autre chose, vers la terre d'abord, vers l'humus, vers ces choses magiques qui font qu'une simple graine posée en terre va, après sa mort, parce qu'une graine c'est déjà la mort, va simplement au moment où vous la remettez dans la terre, être ressuscité, ou plus exactement, subir un peu le même rythme, parce qu'à Xochicalco, où nous étions tout à l'heure, il y a un temple à côté qui est voué à la planète Vénus. Et ce temple, quand on l'observe, on est très troublé par un premier phénomène. Il y a en surface, comment vous l'expliquez, des serpents. Oui, des serpents qui ondulent doucement dans l'espace. Il y en a même 8. Oh, le chiffre 8, c'est un chiffre particulier, nous le verrons. Donc on en met 2 de chaque côté de la pyramide. Et ces serpents ondulent et ils ont bizarrement des grandes plumes de quetzal. Je ne sais pas si vous connaissez la plume de quetzal, elle peut atteindre 60 ou 80 cm de longueur. C'est un oiseau de paradis qui est minuscule, qui fait 20 à 30 cm. Je parle de son corps, bien sûr, avec une petite gorge rouge. Mais tout le reste est vert. Un vert. C'est entre le vert jadéite et vous avez déjà vu le changement des couleurs de plumes de paon, par exemple. Le paon réal, comme on l'appelle au Mexique, le paon royal, il a, comme le dindon d'ailleurs sauvage, ce reflet un peu brûlé, un peu acide, un peu arc-en-ciel comme ça. Eh bien, la plume de Quetzal évoque à la fois cette couleur de l'eau, cette couleur ondoyante, cette couleur changeante. Alors, un serpent qui ondule comme ça dans l'espace, eh bien, on imagine tout à coup dans la mythologie précolombienne que c'est bien cette étoile qui vient de s'éteindre ce matin au moment où le soleil l'a carrément mangé, dévoré par sa propre lumière, par sa propre supériorité, c'est Vénus. Mais Vénus, bah tiens, dans quelques jours, vous ne savez pas pourquoi, elle aura disparu. Elle aura disparu à l'horizon. Je viens de la voir il y a quelques heures sur le sommet de la pyramide de Teotihuacan. Bon, c'était un déjeuner que j'avais pris aux alentours de 18h30, c'est vous dire si j'avais de l'avance. Mais il y a un petit restaurant qui est placé juste derrière la grande pyramide de la Lune. Et puis quand je me suis installé au restaurant, j'étais sur la fenêtre et là, j'ai vu Vénus. J'ai vu Vénus et puis en même temps, j'ai surtout vu au cours du repas qu'elle changeait d'endroit parce que c'est vrai qu'on prend rarement le temps de voir le déplacement d'une étoile. Et puis elle s'est posée vraiment délicatement sur le sommet de la pyramide et puis elle a disparu à l'intérieur. Ben, c'est un peu cela. Au moment où elle disparaît à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur de cette pyramide inversée à 9 degrés, eh bien c'est un peu comme la petite graine. Elle descend et puis un jour, après 8 jours par exemple, vous voyez le chiffre revient, eh bien elle apparaît. Or, quand vous mettez un simple petit grain de maïs dans l'humus, dans la boue, attendez 8 jours et vous verrez tout à coup une toute petite pousse verte qui va sortir. Ben, tout est fait comme cela lorsqu'on pense précolombien, tout est conçu comme cela. Pour que cette graine sorte, il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut naturellement l'air qui est la pensée, la culture, le fait d'avoir inventé tout cela, d'avoir compris tout cela. Les dieux vous l'ont enseigné. Et puis il faudra naturellement le dernier des éléments, c'est-à-dire celui qui obligatoirement deviendra le plus fort, c'est-à-dire la lumière solaire. Et puis en même temps, cette puissance qui fait que le feu ardent et tout ce qui brille va permettre la vie. Il s'est élevé ce matin, il est monté à midi, il se couche ce soir, et là il a marqué dans le ciel une ligne absolument incroyable. On est dans le musée d'anthropologie, on pourrait pénétrer peut-être dans la salle aztèque justement. Et là, la première pièce qui me touche, qui vous dévore carrément, c'est un jaguar, une sorte de puma monstrueux. Un jaguar, comment vous le décrire? D'abord, il vous regarde. Il a des yeux absolument ronds. Il a un mufle complètement écrasé avec les lèvres. Même ma voix va changer parce que je vais faire un rictus dans la mesure où mes crocs vont sortir. Vous savez, ces espèces de canines incroyables qu'ont les fauves. Et puis, il a surtout une position. Essayez de rentrer vos épaules maintenant, vous ramassez vos pattes comme vos bras, là, vous êtes en train de fermer les poings, vous bandez, vous arquez votre corps, vous fermez tout cela, et puis en même temps vous prenez racine dans le sol, hein, comme si vous plantiez vos griffes de façon imposante. Il est couché comme ça, comme une chose qui est concentrée, comme si tout à coup l'énergie entière de la pierre dans laquelle il est sculpté, c'est quand même une pièce qui fait presque 2 mètres de longueur sur 80 cm de hauteur et qui a quelque chose de, non seulement de monumental, mais il a quelque chose de gras, de gros, la tête est ronde, les oreilles sortent, le ventre est bien arrondi et puis ses pattes vous font presque peur parce qu'elles sont trop, elles sont justement trop formées, trop rondes, trop puissantes. Elles prennent place comme cela devant vous, comme si la sculpture tenait carrément sur son socle, comme si elle était accrochée sur son socle. Et puis quand vous vous approchez, vous voyez qu'à côté, il y a des petites marches pour monter et pour regarder un peu mieux. Ne le touchez pas. Non, non, les pièces archéologiques, il faut les respecter, c'est vrai. On a toujours envie de caresser ce basalte noir qui a une rugosité assez étrange. Il était peut-être peint, bien sûr, à l'époque aztèque. Mais ce qui vous trouble, c'est que tout à coup, lorsque vous êtes monté l'escalier, vous allez voir une sorte de vasque. Vous vous rappelez de mon espèce de tube de tout à l'heure? Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est une simple vasque de forme absolument cylindrique, comme ceci, avec un fond plat, entièrement sculpté. Et puis là, vous commencez à lire. Parce que quand vous savez lire aztèque, vous voyez bizarrement qu'il y a, au départ de ce cylindre, des plumes. Mais ce ne sont pas des plumes de Quetzal, non, non, là ce sont des plumes d'aigle. Vous savez que l'aigle, vous l'avez vu voler? C'était lui qui accompagnait ce soleil jusqu'à midi. C'est lui qui est là-bas, au sommet du ciel, qui vient de se griller les ailes. Il a cette couleur à la fois fumeuse et brûlante, qui fait que le noir, le gris et le blanc se confondent dans le pelage de l'oiseau. Et ces plumes d'aigle descendent doucement vers quelque chose qui ondule. C'est comme si vous aviez un flot de quelque chose qui ondule tout autour de la vasque, et en même temps, il y a des petites pastilles à l'intérieur. Comme si je faisais des petits yeux, je dirais même des petites étoiles, ou plus exactement des petites bulles. Et juste en dessous, vous avez encore la fin des plumes et on arrive sur le fond de la vasque. Et vous comprenez tout à coup, en regardant le fond, qu'il y a quelque chose d'important. Il y a deux divinités. Elles sont humanisées, ce sont des hommes qui sont debout. Et ces deux hommes tiennent quelque chose d'assez curieux dans la main. Devant eux, il y a également un objet posé. Et ce qui est curieux, c'est que ce qu'ils tiennent dans la main, comment vous le décrire? Ce sont des épées, des sortes d'épines comme ça. Plus exactement, des pointes de cactus. Je ne sais pas si vous connaissez ces grandes agaves qui poussent. Nous sommes à 2300 mètres d'altitude. Les Aztèques vivaient à Mexico, Tenochtitlan. Ce sont les hauts plateaux mexicains. Il y a ces agaves qu'on retrouve aussi dans le sud de la France, qui ont quelque chose à la fois de large et de mou dans les épées, comme ça. Et ils en coupaient simplement les pointes, qui sont acérées, comme ça n'est pas permis. Et dans cette pointe, la chair est assez molle, assez douce. On peut d'ailleurs la cuire, on peut même la manger, on peut en faire de la ficelle, on peut faire un tas de choses avec le maguey. On peut même en faire de l'alcool, c'est-à-dire la boisson des dieux, en le laissant fermenter pendant 4 jours et en le buvant le 5e. Et bien là, vous allez repiquer 4 autres aiguilles dans la 5e. C'est-à-dire, vous remettez des petites épées en pointe, comme des cure-dents, si vous voulez, mais cure-dents confortables, hein, longueur d'une fourchette, je dirais. Et ces personnages tiennent cela à la main et ils en ont également à leurs pieds. Et ce sont les dieux principaux, naturellement, des Aztèques. Et vous dites, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des épines? Et c'est en pensant aux petites bulles dans le liquide qu'on commence à comprendre. Parce qu'au centre, il y a naturellement le symbole solaire qu'on évoquait tout à l'heure. Le cylindre évoque ce soleil de midi, celui qu'on appelle Tonantiu, qu'on va retrouver juste en face, là, parce qu'en rentrant dans la salle, la première chose qu'on a vue, c'est le jaguar, mais la deuxième, c'est le calendrier aztèque. Cette formidable pierre qui fait pratiquement 3,50 m de diamètre et qui a été placée de façon verticale, bien qu'à l'époque précolombienne, il était posé comme un plateau au pied de la grande pyramide qui montait jusqu'à 140 marches, presque 60 mètres de hauteur, en plein cœur de Mexico, Tenochtitlan, dans ce lieu sacré des Aztèques. Eh bien, ces petites aiguilles, tout à coup, vous suggèrent que, écoutez, sortez votre langue. Tenez-la maintenant avec les deux doigts, là, vous prenez le pouce et l'index et vous tenez bien la langue à l'extérieur. Vous y êtes, vous prenez maintenant dans votre petite pelote particulière une aiguille et vous piquez. Et vous allez voir des gouttes perlées de sang qui commencent à couler. C'est très agréable, pour les dieux bien sûr. Et vous laissez déposer cela. Un dieu est capable de s'auto-sacrifier et d'offrir son propre sang. Alors maintenant que vous avez analysé l'ensemble de la vasque, vous avez compris, ça s'appelle effectivement le vase de l'aigle. Or, le vase de l'aigle, c'est ce qu'on peut offrir de mieux à cet aigle de midi qui est au sommet du ciel. Et ce qu'on peut offrir de mieux, essayez de deviner ce que c'est. C'est ce qui fait justement fonctionner le petit filet avec les bulles, le sang, votre circulation, votre chlorophylle humaine, si j'ose dire. Au moment où vous offrez votre propre sang, eh bien, il suffit de prendre un grand poignard d'obsidienne, c'est le cas des Aztèques qui utilisaient également le silex. Le grand couteau du silex, quand je dis grand couteau, c'est vraiment le beau couteau suédois. Hein. C'est vraiment le couteau que vous utiliseriez pour le meilleur des assassinats. Hein. Mais c'est une longue pierre de forme presque ovaloïde, comme cela, avec deux pointes très acérées. Vous pouvez y mettre un manche de bois, si vous voulez, avec une divinité, ce sera très beau. Ce sera vraiment le tout beau poignard de sacrifice. Vous mettez cela juste en dessous des côtes. Vous cisaillez un peu, ça n'est pas évident. Et puis, si vous êtes vraiment le meilleur des Nakom, le meilleur des prêtres, vous êtes déjà 5 au travail. Hein. Il y en a 4 qui tiennent les 4 membres. Le personnage est arqué complètement sur la pierre de sacrifice. Le dos absolument posé sur cette pierre qui avait quelque chose d'un peu rudimentaire, comme ça, comme une sorte de... Oui, de pain de sucre, comme ça, qui permet une bonne ouverture de vos vertèbres et surtout une tension fantastique de votre ventre. Et là, vous voyez le poignard qui pénètre à l'intérieur, les chairs s'ouvrent doucement, difficilement, et vous n'avez plus qu'à plonger la main et vous allez chercher. Juste au moment où ces 6 litres de sang commencent à sortir d'un seul coup et coulent, vous les voyez descendre? Ils descendent les marches, ils trottent vers la terre, ils retournent à leur lieu d'origine. Ils vont effectivement alimenter en liquide ce que la terre attend, ce que la végétation attend, ce que mon grain de maïs attend. Ça c'est pour Tlaloc, c'est pour l'idée de la pluie. Mais je viens de sortir quelque chose d'assez énorme, comme une grosse noisette vivante, vibrante. Le cœur, je la porte vers le ciel, je regarde le soleil de midi, celui du zénith. Je pose cela sur le brasero qui fume juste à côté. Regardez, la fumée monte déjà, jusqu'à midi, jusqu'à Tonantiu. Il avait faim. Il avait faim, il vient de manger quelque chose de solide. Le liquide a été bu par son opposé. La pluie, le dieu de la pluie, le dieu de l'agriculture, et ce soleil qui vient de se lever ce matin, qui se couchera ce soir, qui vient de faire dans le ciel la ligne la plus parfaite. La pyramide a été construite exactement dans l'axe du soleil qui s'est levé ce matin. L'est, le sommet du ciel, l'ouest, juste une petite déviation de 17 degrés sur le nord, vous y êtes. Tous les sites précolombiens seront construits comme cela, orientés aussi parfaitement que votre église qui regarde du côté de Jérusalem. Vous avez l'esprit qui court, votre sang ne coule plus comme d'habitude. Bah oui, le vase de l'aigle, c'est le soleil de midi et le jaguar qui vient d'être le réceptacle, c'est ce soleil de la nuit. Un soleil de jour, un soleil de nuit, une énergie nocturne, une énergie diurne, les deux plus grands prédateurs que l'Amérique ait jamais connus. Un aigle qui vole là-haut dans le ciel, un jaguar au fond de la jungle qui sort avec son pelage tacheté plein d'étoiles. Et qui a des yeux qui brillent jaunes dans la nuit, et qui est le seul prédateur. Regardez, il a été capable de manger tout ce qu'il a trouvé, y compris un homme. Et tout cela, jusqu'au petit brin d'herbe, il ingurgite comme une machine tout ce que l'homme est capable d'imaginer dans la création. Un jaguar, c'est aussi, je le disais, une machine incroyable. Une machine qui dévore tout sur son passage. Mais quand je dis dévorer, vous avez vu les crocs tout à l'heure, vous avez vu cette férocité incroyable, vous avez vu ces pattes fantastiquement ancrées en terre. Mais il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup plus fort. Vous avez mangé tout à l'heure? Vous êtes en pleine digestion? Vous sentez votre estomac? Vous sentez cet intérieur assez curieux qui fait que ce que vous avez broyé va se transformer en énergie? Et que cette énergie, effectivement, permettra à l'animal lui-même, à ce soleil nocturne, de continuer de bouger. Je suis en train de nourrir les éléments naturels qui vont faire la vie. Or, c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que la sculpture qu'on vient d'admirer, ben vous la voyez maintenant, hein, vous avez vu cette tête posée, vous avez vu ses pattes, vous avez vu ce corps, vous avez vu ce dos creusé carrément d'un cylindre, le fond du cylindre, mes dieux qui offraient leurs petites gouttes de sang pour le plaisir des hommes, et les hommes qui offraient leur corps qui était déposé dans cette même vasque. Au moment où vous déposez le cœur humain pour quelques instants avant de le poser dans le brasero, eh bien, il est placé au cœur de la sculpture, dans la matière pierre, en plein dans l'estomac du jaguar, finalement, à l'endroit où tout est broyé, où tout est analysé, où tout est concentré, où tout est transformé en énergie. Ben, retournez-vous sur la droite. On vient de pénétrer dans la salle aztèque du musée d'anthropologie de Mexico. On y est déjà depuis quelques semaines, mais c'est vrai que c'est une salle où on pourrait passer effectivement plusieurs jours uniquement à traduire ces images symboliques. Là, on vient de voir une simple statue. Il a fallu faire toute une histoire. Il a fallu comprendre comment fonctionnait le ciel, le cosmos, l'histoire même de l'astronomie. Bon, j'avais encore mis Vénus, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous allez voir que tout cela tient fantastiquement bien en place chez un précolombien. C'est une machine, effectivement, ils adorent. Ben, comme un bon horloger, je ne vois, voudrait que son horloge soit précise. L'Aztèque était précis jusqu'à dire, ben écoutez, Vénus, je la connais parfaitement avec une erreur de 17 secondes par année. Tout cela tient. Et quand vous vous retournez sur la droite, vous voyez un autre monument. C'est le deuxième de la salle aztèque. C'est toutes des choses qui ont été trouvées à quelques mètres, ou à quelques centimètres, devrais-je dire, de la toute grande pyramide de Mexico-Tenochtitlan qu'on a découvert il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a retrouvé ses fondations. Ces fondations qui avaient été simplement enterrées involontairement au moment de la destruction de Mexico-Tenochtitlan. C'est un peu comme si vous passiez un bulldozer et qu'il restait quelque chose en dessous de votre passage, dans les débris, dans les décombres. Et on a retrouvé une multitude de pyramides posées les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'un escalier était posé sur un autre escalier, on avait respecté l'escalier qui était mort et on en reconstruisait un nouveau, comme si vous reportiez une nouvelle peau, un peu comme dans mon idée de la végétation qui refait sa peau, comme le serpent qui change de peau, comme effectivement l'évolution fait qu'un oignon grossit de plus en plus et prend une belle forme d'oignon bien plein, et chaque fois que vous l'ouvrez, il y a une autre peau qui permet de retrouver le centre, le cœur, la première pyramide qui a été construite certainement avant 1300, même si les Aztèques prétendent curieusement que leur année de fondation est une année un silex. C'est un jour, c'est une année de calendrier. Quand je dis un, ça veut dire origine. Et quand je dis silex, c'est que j'ai commencé à l'utiliser, vous avez saisi tout à l'heure, par rapport au sacrifice humain. C'est un peu la façon d'avaliser une civilisation. Et sur ce deuxième monument, c'est un peu, je dirais, l'apothéose d'une idée aztèque. Vous êtes gêné par le sacrifice humain, je crois. Je pense que c'est normal, on est tous un peu gênés par ce côté même anthropophage, puisque une fois que j'avais terminé mon travail au sommet avec mes cinq personnages qui tenaient les quatre membres, celui qui vous étranglait avec un serpent à deux têtes, et celui qui faisait l'office, ils étaient six en tout, qui arrachait carrément le cœur, eh bien ensuite il faudra bien faire quelque chose du corps, bien sûr. On le déjetait en bas des marches, mais c'est vrai que, bah tiens, je vais vous raconter l'histoire de la main. La main est une étrange histoire, parce que pour obtenir quelqu'un qui monte sur une pyramide, il faut aller le chercher. Comme vous iriez chercher du pétrole au fond du désert, comme vous iriez chercher du bois au fond de la forêt, c'est un carburant. Vous avez bien compris que j'avais un carburant solide, que j'avais un carburant liquide, et que par un seul geste, j'arrive à faire exploser ces deux carburants dans un système énergétique. Donc je suis à quelque part extrêmement économique. Quand vous mettez un peu de benzine ou de gazoil dans une machine ou un moteur, vous ne le mettez pas à côté. C'est-à-dire que vous choisissez vraiment une fonction énergétique pour faire avancer une machine. Eh bien, le précolombien était tout aussi économe que nous le sommes. On ne jette pas l'huile de la lampe, on la laisse brûler et on remet de l'huile. C'est exactement le même principe. Donc, un aztèque était économique, donc la mort était très économique. Je veux dire par là, je ne prendrai pas d'exemple, entre Clinton, l'Angleterre ou l'Irak, si vous remarquez, il y a toujours du déchet dans les guerres d'aujourd'hui. Il y en a toujours eu dans les guerres normales. Or, les guerres aztèques étaient des guerres extrêmement économiques. Je vais vous raconter l'histoire de la main et vous allez le comprendre. Dans la société aztèque, eh bien, il y avait des prêtres, c'est vrai, il y avait tout un fonctionnement, une économie qu'on va voir tout à l'heure et qui tourne autour de cette idée du sacrifice. Mais il y avait naturellement des guerriers. Et les guerriers étaient les seuls autorisés par le destin, par la naissance, auprès de n'importe qui, c'est-à-dire qu'un simple petit Pékin, un enfant du peuple qui serait né très aigle ou qui aurait, je ne sais pas, un signe extrêmement puissant, je choisirais aigle, mais je pourrais choisir jaguar, je pourrais choisir vautour, je pourrais choisir, qu'est-ce qui me viendra encore à la tête ? Des signes très 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 forts, il faudrait quand même trouver quelque chose de puissant. Bah, il y aurait par rapport à certains dieux comme Tlaloc ou éventuellement le chien, le coyote, enfin il y aurait des possibilités qui font qu'à votre naissance on pourrait deviner que vous avez de futurs talents de guerrier. Et si vous avez envie de monter dans la société, c'est la seule voie qui vous est ouverte, sinon vous restez exactement comme vous êtes pour le restant de vos jours. Alors devenir guerrier, c'est devenir chevalier. Devenir chevalier, c'est choisir sa chevalerie. Il y avait des chevaleries de l'aigle, des chevaleries du jaguar, du coyote et tous les animaux prédateurs dont je parlais tout à l'heure. C'était des véritables clans, des véritables cliques, je dirais même des univers qui pouvaient presque être Monaco, dans la mesure où on avait une formation religieuse très complexe, on avait des temples où l'on se formait et des sortes de collèges où on vous apprenait à faire la guerre, mais une guerre très curieuse, c'est-à-dire qu'on partait à la guerre comme vous partiriez au carnaval. Je veux dire par là que vous étiez harnaché et habillé de façon absolument incroyable, avec des plumes qui montaient à 2,50 m en dessus du sol et qui vous grandissaient le corps, parce qu'on est petit chez les Aztèques, on fait 1,60 m en général. Et vous aviez naturellement du papier, des tissus, bien sûr des javelines s'il le fallait, un bouclier. Mais ce qui était quand même très curieux, c'est que, par exemple, l'Aztèque n'est jamais parti à la guerre avec un arc. L'arc et la flèche, n'importe quel nomade l'avait toujours utilisé. Vous allez me dire, tiens, c'est quand même curieux. Vous imaginez nos soldats qui partiraient sans mitraillette, sans fusil, avec simplement un petit couteau suisse. Vous y êtes ? Se battre au couteau suisse, on a peu de chances de tuer forcément l'ennemi. Je prends une image un peu farfelue, mais vous allez comprendre qu'au moment où on se retrouvera sur le champ de bataille, vous êtes armé en principe d'une massue en bois avec de simples petits rasoirs d'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre vitrifiée qu'on fait éclater comme ça par nucléo interposé. On tape sur le sommet et cling, vous avez carrément un rasoir qui se détache, qui peut atteindre 10 ou 15 cm de longueur, pas très large, 1 ou 2 cm, mais c'est véritablement le rasoir de l'époque. C'est le Sheffield du moment. Hein. Vous mettez ça sur votre simple massue de bois et vous avez vraiment l'arme idéale pour ne pas vraiment blesser, parce que celui en face, c'est bourré de coton. On connaissait la cotonnade et on se mettait comme si vous vous bourriez, prenez une bonne doudoune, hein, bien ouatinée, c'est exactement ça. Souvent, on se protégeait de cette façon pour aller à la guerre. Donc, on comprend déjà dès le départ que l'idée n'est pas de tuer. Vous avez saisi, on part à la guerre pour ne pas tuer. Ça paraît curieux. Et sur le champ de bataille, la seule chose qu'on essayait de faire, c'est d'essayer d'attraper la mèche de cheveux. On avait les cheveux longs à l'époque. Imaginez quelqu'un qui a un catogan. Ben vous l'attrapez carrément par la mèche de cheveux. Et à l'instant où vous attrapez quelqu'un par la mèche de cheveux, il vous tend sa main. Il devient votre frère de sang. Il a accepté d'avance sa défaite. Parce que dans le contrat de départ, on lui a dit qu'il aurait toutes les chances de finir sur l'autel des sacrifices ou comme prisonnier. Bon, celui qui a gagné, il a de la chance. Il suffit qu'il gagne 4 fois, il sera capitaine. Vous avez compris que chaque fois que je passais du 4 au 5, on a une nouvelle ouverture. Bon, ça c'est la chance de votre destin. Mais si vous avez perdu, vous l'acceptez, vous tendez la main. Je dirais même que vous allez la garder pratiquement dans celle de votre vainqueur. Parce que si dans l'année on vous sacrifie, c'est également lui qui viendra vous accompagner devant la pyramide et qui vous permettra de monter. D'accord, la shooteuse sera mise en route, on vous donnera un petit rien d'hallucinogène s'il le faut. Et puis vous avez remarqué que la petite corde à deux têtes du serpent final qui se mettait autour de votre cou vous permet d'éviter les sons. Hein, je veux dire par là, on doit être joyeux. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire d'offrir sa vie pour les dieux et pour faire fonctionner cette machine. On est conscient qu'on va recevoir le meilleur des paradis à l'heure de la mort. Un guerrier, on va le voir tout à l'heure, lorsqu'il meurt, effectivement, il se transforme en colibri ou en papillon et pendant 4 ans, il va accompagner. Vous vous rappelez ? Il s'est levé ce matin, très doucement, et les guerriers l'ont poussé jusqu'à l'heure de midi. Et de midi jusqu'au soir, oh, c'est plus facile de descendre. Ce sont les femmes, pas n'importe quelle femme, les femmes qui sont mortes en couche, celles qui allaient donner naissance aux futurs guerriers. Et oui, ce ne sont que ces femmes-là qui auront le droit d'accompagner le soleil, un peu comme un char d'Apollon qu'on ferait avancer doucement dans le ciel. Ce sont pendant 4 ans ces guerriers sacrifiés, ces ennemis sacrifiés qui auront le droit de faire avancer votre propre machine, votre propre carburant a été mis à contribution pour que cette incroyable énergie se produise et que cette machine continue. Et c'est ainsi qu'on se faisait la guerre. Et la guerre, c'est de l'économie dans la mesure où on tue très peu, si vous avez bien saisi. Quand je prends le bilan aztèque de sacrifices humains, il est nettement moins impressionnant que n'importe quelle bataille de notre Moyen-Âge ou de notre époque moderne, a fortiori. On ne tuait jamais en vain. Si on partait sans arc et sans flèche à la guerre, c'est parce que dans l'arc et dans la flèche, il y a le mot hasard, et que le mot hasard est la chose la plus dangereuse pour une société aztèque. Si vous tuiez quelqu'un par hasard, c'est vraiment quelque chose qui ne valait pas la peine. Mourir dans votre lit est un peu la même chose. C'est une mort inutile. Il faut que votre mort ait une signification. À l'heure de votre naissance, vous êtes déjà à votre mort. Je viens de placer ma main gauche de façon droite, celle de droite de façon gauche. Non, je les colle ensemble au centre, je viens de claquer des mains et c'est exactement l'instant que le précolombien assimile à sa vie. C'est-à-dire entre sa naissance et sa mort, il n'y a strictement rien qui ne vaille la peine. La seule chose que vous chercherez toute votre vie, c'est de savoir comment et pourquoi vous allez mourir. Et c'est la seule chose qui vous permettra de continuer votre vie dans l'au-delà. Mais pas un au-delà comme le vôtre, pas un paradis éternel. Non, 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 non. Quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous avez le pouvoir de devenir vous-même de l'énergie vitale et qu'un jour, une fois que cette énergie aura été dépensée, vous allez vous refondre dans cette énergie vitale. dans quelque chose qui est au bout de la science d'aujourd'hui. Vous savez, cette chose qui fait que l'énergie ne se consume jamais vraiment, qu'elle est toujours là pour revenir, pour recommencer. Bing, bang, bing, bang. C'est un peu l'idée du précolombien. Il y a déjà eu 4 soleils. Vous allez rencontrer le 5e. Qui est devant nous, c'est une espèce de grand cube. Et quand je dis grand et cube, j'ai envie que ce soit lourd, que ce soit fort, du basalte plein. Ça a une forme de pyramide. Devant, il y a de faux escaliers, tout petits. Ils font 5 à 6 cm de hauteur, mais ils font à peine 3 à 4 mm de profondeur. C'est simplement un petit décor qui monte comme ça, une vraie pyramide mentale. Et puis, sur cette pyramide, il y a des hiéroglyphes. Oh, ce n'est pas important, mais ce sont des dates très précises en fonction du moment où la pyramide a été érigée. Ce sont les dates d'érection. Et puis, vous êtes surpris parce que sur le dessus, il y a une sorte de plateau. Et ce plateau ressemble, il y a 2 boucliers par exemple, avec des javelines. Et puis, juste en face, à l'endroit où serait le temple au sommet, il y a une sorte de soleil. Le même qui est au centre du calendrier. Tournez votre tête sur la gauche, vous allez le voir, le grand calendrier aztèque. Eh bien, le cœur du calendrier aztèque a cette même figure. C'est un glyphe, comment vous l'analysez en radio? Olin. Olin. Olin, c'est un mot aztèque qui veut dire « mouvement ». Et quand je dis « mouvement », je dis « caoutchouc ». Quand je dis « caoutchouc », je dis « balle de caoutchouc ». Quand je dis « balle de caoutchouc », vous la voyez? Elle vient de tomber sur le sol. Elle rebondit, mais elle se fatigue, doucement. Elle rebondit encore, mais elle se fatigue, doucement. Qui peut la faire rebondir? Vous prenez votre poing et vous tapez très fort. Bam! Et la balle rebondit. Vous avez tout compris? Si le soleil doit continuer à rebondir dans le ciel, c'est grâce à cette idée du caoutchouc, du mot olin, du mot mouvement, qui est le nom du dernier soleil dans lequel nous vivons. On l'appelle 4 mouvements, Naui. Olin, c'est un beau nom pour les Aztèques. Eh bien, à côté de ce soleil, on y reviendra, il y a 2 personnages, ce sont les mêmes dieux que tout à l'heure. Et ces dieux tiennent toujours quelque chose pour se piquer la langue, pour offrir leur sang. Et sur les côtés du monument, tout est gravé, partout il y a de la sculpture. Sur les côtés, vous avez un gros glyphe sur la droite, un mort. Un crâne décharné avec une petite pastille qui vous dit un. Est-ce que ça s'analyse ce 6e jour du calendrier? Mais non, on comprend très bien que c'est la solution finale. Parce que de l'autre côté, vous avez un. Tekpatl, c'est-à-dire le couteau de silex de tout à l'heure. Et puis quand vous commencez à tourner, vous avez des dieux encore en bas qui font les mêmes cérémonies que tout à l'heure, quand vous tournez à l'arrière de ce monument incroyable, vous trouvez quelque chose qui ressemble à un monstre de la terre, et par-dessus vous avez carrément une sorte de colline de rocher, et sur ce rocher vous avez un cactus. Vous savez ces cactus qui sont des figuiers de barbarie avec des belles palettes. On en trouve aussi en Europe, ils ont été importés un jour du Mexique. Ces cactus sur lesquels on peut cultiver de la cochenille, mais surtout ce figuier qui donne justement des figues de barbarie. Vous avez déjà vu une figue de barbarie au moment où elle fleurit, au moment où elle est pleine, au moment où elle est belle? Et il y en a partout autour d'une palette comme ceci. Elle commence à être verte et puis tout à coup on voit quelque chose de rouge qui se dessine au moment où la fleur est terminée, au moment où la figue elle-même est mûre. C'est-à-dire au moment où le fruit est vraiment à consommer. Et sur ce cactus, il y a un aigle. Et cet aigle est posé avec une patte et ses serres absolument plantées dans le cactus. Et avec l'autre patte et les autres serres, là je suis en train de serrer un peu mes doigts, eh bien on remarque qu'il fait le geste de prendre une figue de barbarie. Il empoigne une figue de barbarie et vous avez son bec agressif qui est prêt à recevoir cette figue de barbarie. Est-ce que vous avez déjà ouvert une figue de barbarie? Vous vous rappelez du symbole du Quetzal, de la végétation? Tout était vert, d'accord? Mais au moment où je l'ouvre, elle est rouge exactement. Regardez, elle est dessinée comme un glyphe aztèque, c'est en fait un cœur humain. C'est bien l'idée. Mon aigle de tout à l'heure, qui est au sommet du ciel, vient de se poser sur le cactus qui lui-même est sur un rocher, c'est la fondation de Mexico Tenochtitlan. C'est l'endroit où le dieu Huitzilopochtli, le colibri de la gauche, le guerrier ressuscité du sud, un bien beau nom qui nous fait comprendre que c'était le dieu tribal de ces Aztèques, avait dit « Le jour où vous verrez un aigle posé sur un cactus, au milieu d'un rocher sur une île, vous saurez que c'est là que vous devez fonder Mexico Tenochtitlan. C'est encore sur le drapeau aztèque. La différence, c'est qu'on a mis un serpent à la place de la figue de Barbarie. Mais le symbole de base, il est là, devant vous, dans cette sculpture de basalte. Et ce qui est curieux, c'est qu'au lieu d'avoir la figue elle-même, puisque je faisais seulement le geste avec les serres, dans le bec de l'aigle, il y a des symboles que vous avez vu courir tout autour du monument. Chaque personnage qui parlait, la mort de tout à l'heure, le silex qui est habité par un œil et une bouche, tout cela parle en faisant un geste très curieux, comme si vous montiez une sorte de flamèche au sommet de la bouche, comme si vous aviez, vous savez, les brûleurs de foire quand ils crachent leur essence, et bien c'est exactement ça. Hein. On voit vraiment du feu qui monte, et si on regarde, il y a un deuxième jet qui descend comme de l'eau avec des coquillages. Là, je suis en train de dessiner du hiéroglyphe en radio, c'est pas évident. Et bien, ce double symbole, si je le lis véritablement, je dis par le feu et par l'eau. Vous y êtes ? On est de nouveau dans la même symbolique que tout à l'heure. On est en train de dire quelque chose qui va se traduire, étymologiquement parlant, par la guerre fleurie. Qu'est-ce qu'une guerre fleurie ? Bah oui, bah là vous devez tout traduire, parce que la guerre fleurie, c'est bien une guerre particulière. Et si c'est une guerre des fleurs, la fleur de la vie, c'est le cœur humain, c'est la fleur du cactus de tout à l'heure. Donc en faisant la guerre fleurie, c'est une nouvelle façon d'inventer la guerre. C'est un monument qui a été créé à la fin de l'époque aztèque, juste avant que les Espagnols arrivent. Et là, on en est arrivé à un mode de... comment le dire, d'invasion aztèque, qui était tellement grand. C'est un peu comme si vous partiez de Genève, que vous étiez déjà à Paris, que vous avez pratiquement pris Bruxelles et que vous êtes déjà en Italie. Tout à coup, l'Europe est pratiquement grignotée. Il n'y a plus de place dans l'univers. Il n'y a plus de place pour concentrer cette énergie de prisonnier vers le centre. Alors, l'aztèque avait tout simplement laissé sur sa carte des taches blanches. Un peu comme l'enclave qui correspondrait à Genève se trouve du côté de Cellini. Vous imagineriez Cellini toujours en blanc, qui fait partie de l'idée genevoise, mais qui est une petite seigneurie séparée. Et imaginez-vous aussi, deux fois par an, par exemple, vous vous envoyez un petit carton d'invitation. Cellini, Genève, c'est disproportionné, vous me direz. Eh bien non, ces deux communautés, ces deux seigneuries, ces deux empires, à quelque part, vont se faire la guerre de façon complètement artificielle. C'est-à-dire que pour remplir les réservoirs de prisonniers, pour chercher l'essence énergétique dont je parlais tout à l'heure, on avait inventé des taches blanches dans l'Empire aztèque pour pouvoir continuer de seigneur, à s'envoyer des cartons sans que les guerriers sachent qu'on n'était plus vraiment ennemis. C'est vous dire à quel point c'est aberrant. Ce sont de fausses guerres qui permettent simplement d'avoir suffisamment de prisonniers. C'est vrai que dans les grandes guerres, on ramenait 5 à 6 000 prisonniers. Donc, d'accord, il y avait des morts. Je veux dire par là que le réservoir se remplissant et se vidant, c'était assez fou. Retournez-vous maintenant. Le calendrier aztèque ne va plus vous parler de la même manière. Vous allez voir que cette pierre qui fait plus de 3 mètres de côté, eh bien, dans le musée d'anthropologie et d'histoire de Mexico, on l'a reproduit en couleur sur la paroi d'à côté. C'est-à-dire qu'on a fait la reproduction de ce calendrier dans des couleurs extrêmement vives. Parce qu'on a retrouvé dans les grains du basalte, il faut dire que cette incroyable sculpture a été retrouvée certainement déjà au XVIIe ou XVIIIe siècle, on ne sait pas exactement. On l'a retrouvée près du Templo Mayor, dans les restes du passage du bulldozer. Et puis on l'a appuyée contre la cathédrale pendant plusieurs dizaines d'années. Puis ensuite on l'a mise dans un premier immeuble. Et finalement, on l'a placée au centre de cette pièce incroyable, de cette salle aztèque. Et on sait qu'on ne pourra plus la sortir puisqu'on a placé le calendrier avant de construire la salle, et elle est là pour nous dire que si on l'analyse vraiment, c'est ce qu'on a fait de manière microscopique, on a retrouvé toutes les couleurs à l'intérieur du grain de basalte, c'est-à-dire que la peinture est restée un peu à l'intérieur et on a pu colorer cette pierre. Et au centre, on voit quelque chose d'assez fou, et si je vous parle de couleurs, c'est pour une raison bien précise. La première chose qui nous touche au centre du calendrier aztèque, c'est un portrait. Une sorte de rond comme ça, c'est comme si vous aviez un médaillon, oh ben, il fait bien 40 à 50 cm de côté, et vous voyez à l'intérieur un personnage, ou plus exactement la tête d'un personnage, avec des bijoux de jadéite. La jadéite, c'est une belle couleur verte, hein, les boucles d'oreilles, une grande barre dans le nez pour bien dire qu'il est guerrier. Et puis, il a quelque chose de très curieux. Il a des cheveux jaunes, mais un jaune pétant. Un aztèque avec des cheveux jaunes. En principe, tout le monde a les cheveux noirs. Je veux dire, il n'y a pas d'exception à part quelques albinos. Mais en l'occurrence, on a systématiquement le cheveu noir. Et en l'occurrence, cette divinité que vous voyez au centre du calendrier aztèque, c'est Tonantiu. Tonantiu, c'est assez curieux. Tonantiu, ben vous savez qui portait le nom de Tonantiu chez les Espagnols ? C'était Pedro de Alvarado. Pourquoi ? Parce qu'il était rouquin. Et quand les Aztèques ont vu un rouquin, ils se sont dit, ça y est, c'est notre divinité aux cheveux brûlés. Vous avez compris, les cheveux brûlés, c'est bien le soleil de midi, c'est celui qui a le plus chaud, c'est l'énergie de midi que j'évoquais depuis le début de notre entretien. Je veux dire par là, quand vous êtes au sommet du ciel, vous êtes brûlé. Alors ce qui est fou, c'est qu'il a les yeux ronds comme notre jaguar de tout à l'heure, mais qu'il a quelque chose d'encore plus intéressant. Il a une bouche humaine, d'accord, mais elle est aussi ouverte en forme de rictus. On voit ses dents, ce sont des dents humaines, mais ce qui est curieux, c'est sa langue qui sort carrément, qui est rouge, et si vous regardez bien, vous avez un œil, et plus haut, vous avez la bouche. Donc en fait, on a affaire à une langue qui est habitée à l'envers, comme un portrait à l'envers. Et quand vous l'analysez, vous dites « mais ça, j'ai déjà vu quelque part ». Ah ben oui, c'est le symbole du poignard de Silex. Ce soleil crache par sa langue ou sort grâce à sa langue ce même couteau qu'on va utiliser pour lui offrir le meilleur de la vie. Et autour de ce calendrier, il y a quatre symboles. On a encore un peu de temps pour les analyser, c'est vrai. C'est assez fou de penser que le cœur lui-même, vous avez compris que s'il était rond, j'ai envie de dire all-in, j'ai envie de dire balle de caoutchouc, j'ai envie de dire centre des choses. Donc c'est bien mon énergie de midi et autour, il y a un jaguar avec quatre petits points, c'est Naui Ocelotl, le mot Ocelotl vous le connaissez, c'est l'Oslo. Et ensuite vous allez tomber sur la pluie de feu, ensuite sur l'eau, ensuite sur l'air. Et ce sont les quatre soleils qui précèdent le nôtre, des quatre soleils qui ont disparu les uns après les autres avec des cataclysmes. Le soleil de jaguar, eh bien oui c'est vrai que tout à coup le soleil s'est arrêté à midi et que là il est tombé dans l'ombre et que les jaguars ont pu sortir et dévorer les hommes. Si vous prenez le soleil de la pluie de feu, c'est naturellement le volcan qui rentre en éruption. Le soleil d'eau, c'est le vrai déluge, comme on l'a connu, avec les poissons qui survivent. Si vous prenez le soleil d'air, eh bien obligatoirement, c'est le mot huracan qu'on a envie de prononcer, c'est l'ouragan, c'est le fait que les seuls survivants sur cette planète ont été les singes. Les derniers avant nous, ils l'avaient compris aussi de façon naturelle, ces singes qui n'arrêtent pas de bouger. Vous avez compris aussi que l'Aztèque n'avait qu'une idée, ne pas bouger, ne pas broncher, attendre que les choses durent, faire fonctionner ce soleil qui maintenant, par ses quatre éléments, va pouvoir, en chiffre 5, mettre les choses en mouvement, commencer à créer la vie exactement comme les hommes volants que l'on voit à l'extérieur du musée, qui descendent leur mât et qui mettent toute l'énergie du cosmos en route. Ce cinquième soleil qui est devenu une sorte de hiéroglyphe qui se prononce all-in, il y a quatre points des quatre côtés pour dire Naui all-in, c'est-à-dire quatre mouvements. Autour, vous faites une grande roue, vous commencez par le petit alligator, c'est le premier jour du calendrier. Il y en aura 20 qui tourneront doucement jusqu'au dernier qui s'appelle la fleur. Regardez, sur l'eau de tout à l'heure, quelqu'un vient de sortir comme cela. Un animal étrange, avec des espèces de petits pics sur le dos. Il est très long, on ne voit juste que son nez qui respire. Il vient de sortir de l'eau. Les montagnes sont nées. Un alligator, naissance du monde, genèse des choses. Vous multipliez 13 par 20 et vous dites 13 fleurs. Après 260 jours, la fleur est là. Le chiffre 13, c'est la fin du temps, c'est la mort. La fleur de la vie, c'est votre cœur. Posez-le dans un vase de l'aigle. Regardez, le soleil sera encore à midi. Pour 52 ans, un siècle précolombien. On s'essouffle à écouter la roue du temps. Vous avez senti ces 13 fois 20 qui commencent à tourner, c'est le calendrier magique et agricole. Celui qui vous donnera votre nom pour toute votre vie, comme je suis Seth Jaguar, depuis le jour où j'ai décidé de faire un peu d'archéologie et d'ethnographie. Ah, et puis j'aime bien ce côté un peu sorcier du jaguar. Et puis j'aime bien cette perfection du Seth. Et puis vous seriez deux serpents, vous seriez deux lapins, vous seriez un peu ivre, vous seriez différent. Vous pourriez être, je ne sais pas, je vous mettrais... Si je vous mettais 11 cerfs, vous aimez voyager? Ah oui. Chaque personnage, chaque animal, chaque être, chaque chose, la maison, l'herbe sèche... Le vautour de tout à l'heure, le mouvement, chacun des signes de ce calendrier a quelque chose en charge qui le met dans des groupes naturellement, 4 x 5, 20, et vous avez ce 13 qui tourne. Ça, c'était pour le calendrier de 260 jours. Et puis autour, vous avez du sang qui sort carrément des rayons du soleil, qui baigne tout cela avec des crocs très curieux. Et vraiment tout autour du calendrier, vous avez deux énormes serpents. Deux serpents qui commencent par la date de l'érection du monument tout en haut et qui se terminent en bas par deux têtes qui sortent carrément des gueules de serpents. Une tête rouge, une tête noire, l'idée de la lumière, l'idée de l'obscurité. Exactement les deux passages qui correspondait à notre idée du soleil levant et du soleil couchant. C'est Xiuquatl, le fameux serpent de turquoise, celui qui est en dessus de votre tête, celui qui crée la voie, la voûte terrestre, l'ensemble qui fait qu'au moment où ces deux serpents à la fois se touchent par la queue et se mangent par la gueule, on a créé un cercle vivant qui passe par-dessus et par-dessous et qui permet ce mouvement cosmique. Regardez, le calendrier tourne comme un disque se mettrait à tourner. Les 20 signes sont multipliés par 13 et au milieu, la balle bondit. Oh, je devrais dire, elle bat. Elle bat comme un cœur. On a l'impression que dans les énergies, les quatre éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air, ont compris que 5, c'était peut-être le cataclysme, c'est peut-être un soleil qui se terminera dans quelques années par des tremblements de terre ou des famines, mais all-in, le mouvement, c'est bien la balle qui rebondit. Et regardez, l'homme est là, il continue à faire battre et rebondir cette balle.